Après la fusillade antisémite de Sydney, le Premier ministre australien Anthony Albanese refuse de lier la recrudescence des actes antisémites dans son pays à sa décision de reconnaître un État palestinien en Israël. Pourtant, les dirigeants pensent évidemment le contraire et parlent d'intifada globale. Pour en parler, ce matin, on reçoit l'ex-ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada. Il s'exprimait hier soir au micro de Jonathan Serrero.
Daniel Saada, bonjour.
Bonsoir.
Alors, un peu plus de 24 heures après la fusillade survenue hier à Bondi Beach, à Sydney, il y a une autre polémique qui est en train de naître, suite notamment aux déclarations du Premier ministre Netanyahou à l'adresse de son homologue australien Anthony Albanese. Le chef du gouvernement israélien a rappelé hier la décision d'Anthony Albanese de reconnaître un État palestinien et il rappelait que dans sa lettre envoyée cet été, il avait affirmé que cette décision jetterait de l'huile sur le feu de l'antisémitisme. Certains aujourd'hui reprochent au Premier ministre israélien d'être quasiment le principal responsable de la montée de l'antisémitisme dans le monde. Alors, si vous étiez à la place de Benjamin Netanyahou, quelle serait la meilleure réponse à fournir à toutes ces accusations?
Eh bien, continuer de mettre en garde l'ensemble des pays du monde qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas regarder la réalité en face. Vous savez, ce qui se passe en Australie est exactement la même chose de ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble du monde occidental. Il y a des communautés arabo-musulmanes qui se sont installées dans ces pays, qui sont aujourd'hui malades du fléau, qui sont touchés par le fléau de l'islamisme, ce nazisme des temps modernes, qui touche de plein fouet ces communautés arabo-musulmanes qui n'ont pas su s'intégrer dans ces différents pays, qui se tournent vers l'islamisme, et la cause palestinienne est utilisée aujourd'hui par ces mouvements islamistes pour essayer d'abord de porter atteinte à la souveraineté des pays qui les accueillent, mais surtout d'exprimer ce qui fait le ciment, le ferment de cet islamisme moderne, à savoir un antisémitisme viscéral. Donc si j'étais le Premier ministre de l'État d'Israël, comme Benjamin Netanyahou, je continuerais à mettre en garde les différents pays qui pensent pouvoir affronter ce fléau par la démission, par le renoncement, par des actes de faiblesse, comme on a pu le voir notamment en donnant des gages à cette cause palestinienne qui n'est qu'un prétexte utilisé par ces mouvements islamistes.
Alors Daniel, malgré les mises en garde d'Israël adressées aux différentes chancelleries mondiales concernant donc la recrudescence des actes antisémites dans leurs pays respectifs, les autorités de ces nations peinent à prendre la mesure de l'ampleur de la menace actuelle qui a totalement explosé, on le sait, depuis le 7 octobre. Pourquoi refusent-ils de voir ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux ?
D'abord, je crois que c'est la reconnaissance de ce fléau, de ce qui se passe, est aussi un aveu de faiblesse et un aveu de faillite de leur propre politique, de leur propre. Vous savez, vous connaissez cette formule que l'on utilise souvent en Belgique, en France. Il ne faut pas importer le conflit du Proche-Orient dans nos sociétés. Vous la connaissez par cœur. Déjà, lorsque j'étais en poste en Belgique, au début des années 2000, au moment de la seconde intifada, c'était le leitmotiv des différents politiciens belges. Il ne faut pas importer le conflit. Mais la question est très mal posée parce que le problème, le risque n'est pas l'importation du conflit. Mais le problème est que ces pays, votre pays, la Belgique, la France, l'Australie, les autres pays n'ont pas su exporter leurs valeurs aux communautés arabo-musulmanes qu'elles ont accueillies. C'est ça le problème. Le problème n'est pas l'importation du conflit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, d'exportation des valeurs intrinsèques aux sociétés occidentales. Les valeurs de laïcité, les valeurs de fraternité, les valeurs de vivre ensemble. Toutes ces valeurs n'ont pas été partagées avec les communautés qui se sont installés dans ces pays et qui aujourd'hui provoquent le fléau, notamment de l'antisémitisme, du terrorisme. Et donc, pourquoi ces sociétés ont du mal à accepter de regarder la vérité en face? Parce qu'il faut d'abord faire acte de contrition et reconnaître ses propres faiblesses, ses propres erreurs, ses propres errements. Vous savez, on compare souvent les États aux individus. Pour un individu, c'est difficile de reconnaître ses erreurs. Alors, imaginez à l'échelon d'un État, c'est encore plus difficile.
Alors, si je me faisais l'avocat du diable, Daniel, je dirais que malgré les appels du Premier ministre Netanyahou adressés que ce soit à Anthony Albanese ou encore au président Macron, cela ne les a pas empêchés de reconnaître l'État palestinien et d'aller au bout de leur logique, malgré les dangers qu'une telle décision peut faire peser sur la communauté juive, sur les communautés juives, qu'elles se trouvent en Australie ou en France. Qu'est-ce que l'État d'Israël doit faire mieux pour arriver à les convaincre? Vous allez me dire, Daniel, que c'est peine perdue.
En tant qu'ancien diplomate, j'ai du mal à dire que c'est peine perdue de continuer à convaincre, parce que j'ai passé 33 ans de ma vie à essayer de convaincre le bien fondé et la justesse de nos positions. Donc, je ne renonce jamais. Mais je crois vraiment qu'il y a un véritable problème dans le monde occidental, dans le monde européen, vis-à-vis de cette question, parce que le danger de l'islamisme et du radicalisme dans lequel se sont installées les communautés arabo-musulmanes qui vivent dans ces pays est tel qu'on a l'impression aujourd'hui, je crois que c'est un peu le cas du président Macron, c'est le cas du premier ministre Albanese, c'est un peu cette volonté de donner de plus en plus de gages, un peu comme on l'a fait dans les années 30. Je sais, comparaison n'est pas raison. On ne doit pas toujours comparer les choses. Mais je ne peux pas m'empêcher de constater que c'est à peu près ce qui s'est passé dans les années 30 face à la montée du nazisme. On a donné des gages à Hitler. Alors oui, au départ, il a violé les accords de Versailles. Alors on a laissé faire, et puis il a envahi les Sudètes, on a laissé faire, et ainsi de suite, jusqu'aux célèbres accords de Munich, où on était convaincu qu'on avait enfin réussi à sauver la paix, empêcher la guerre, mais en fin de compte, on n'avait fait que renforcer la dictature du Troisième Reich, parce que il ne faut pas se leurrer. Vous savez, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre en 2000, personne n'a envisagé qu'il fallait négocier avec Al-Qaïda. Personne. Personne n'a envisagé de dialoguer avec une prétendue faction, elle, politique d'Al-Qaïda. D'ailleurs, c'est une expression que vous n'avez jamais entendue. On n'a jamais parlé de la branche politique d'Al-Qaïda. On n'a jamais parlé de la branche politique de l'État islamique, alors que par essence, l'État islamique était une organisation politique avant d'être une organisation meurtrière. On n'a jamais entendu parler de la branche politique de l'État islamique ou de Daesh par rapport à une branche armée qui commettrait des crimes. Non, on a toujours considéré que Daesh, l'État islamique, Al-Qaïda étaient des organisations terroristes, islamistes, qu'il fallait combattre, qui ne connaissaient qu'un seul langage, celui de la force. Donc pourquoi est-ce que face aux organisations islamistes palestiniennes, on n'utilise pas le même langage? Pourquoi faudrait-il qu'il y ait une différence entre le Hamas et Al-Qaïda, alors que fondamentalement, c'est exactement la même chose? Donc on applique, dès qu'il s'agit d'Israël, un double standard. On applique des normes que ces pays, la France, lorsqu'elle a été touchée de plein fouet lors des attentats du Bataclan, elle a envoyé ses soldats se battre contre l'État islamique à des milliers de kilomètres de ses frontières, à Raqqa, à Mossoul, pour essayer de mettre à bas l'État islamique. Mais nous, le Hamas n'est pas à des milliers de kilomètres de nos frontières. Al-Qaïda était à des dizaines de milliers de kilomètres des États-Unis. Ça n'a pas empêché les États-Unis d'intervenir en Afghanistan. Mais nous, le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah sont à nos frontières. Et on a vu le danger que ça représentait. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de continuer d'utiliser exactement le même langage que ces nations occidentales ont utilisé, celui de la force, parce qu'on ne peut pas faire preuve de faiblesse. Dès que vous faites preuve de faiblesse vis-à-vis de ces organisations, comme l'a fait le président Macron en reconnaissant l'État de Palestine, en essayant d'apporter un gage politique assez fauve des mouvements islamistes et terroristes, il n'a pas compris qu'il n'a fait que gagner peut-être un tout petit peu de temps, mais surtout, il a envoyé un message de faiblesse qui sera utilisé, exploité le moment venu par ces organisations. Je crains que le prochain attentat soit en France.
Justement, j'ai deux dernières questions très, très rapidement. Pensez-vous que l'État d'Israël doit jouer un rôle plus important dans la lutte contre l'antisémitisme à travers le monde qu'elle ne le fait actuellement? On sait, il y a des coopérations sécuritaires et diplomatiques à haut niveau, vous le savez même mieux que moi, et qui évitent souvent des drames, mais il faudrait peut-être améliorer le travail de sensibilisation auprès des communautés juives qui sont certes conscientes des dangers qui les entourent, mais qui se laissent bercer ou endormir par leur quotidien à l'étranger.
Je peux comprendre la difficulté d'assumer, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les sociétés de manière générale, je comprends la difficulté pour les communautés juives d'assumer ce danger qui pèse sur eux aujourd'hui de manière très concrète. Je crois que la meilleure réponse à l'antisémitisme, eh bien, c'est de rappeler le rôle essentiel pour lequel l'État d'Israël est né. Vous savez, j'ai été frappé par le destin de ce jeune Français que vous avez cité, dans, qui figure parmi les victimes de l'attentat de Bondi Bondi Beach. Il avait quitté la France à cause de l'antisémitisme qui sévissait en France pour essayer de trouver dans ce prétendu paradis de l'Australie une nouvelle vie, et il est mort en tant que juif, parce que juif. Donc, je crois qu'on doit rappeler que l'État d'Israël est né justement pour servir de refuge au peuple juif. C'est aussi une des réponses à l'antisémitisme.
Et pensez-vous, Daniel, vous l'avez évoqué, pensez-vous que on pourrait assister à une recrudescence, une multiplication de ces attaques dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, malheureusement?
Je crains malheureusement que les messages de faiblesse qui ne cessent de se répéter, notamment par cette épidémie de reconnaissance de la Palestine qui ne sert strictement à rien, qui ne sert à rien parce que la solution à deux États dont on prétend qu'elle résoudrait le problème, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise en place depuis 78 ans? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les Palestiniens qui refusent l'État d'Israël. Ce n'est pas l'inverse. Donc, en reconnaissant l'État de Palestine, on ne fait qu'abonder dans le sens de ceux qui se sont installés dans le camp du refus. Monsieur Macron aurait dû réfléchir à deux fois avant de reconnaître la Palestine, parce que la solution du problème, pour pouvoir envisager cette solution à deux États, il faut non pas imposer l'État de Palestine à l'État d'Israël, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut imposer l'État d'Israël aux Palestiniens. Le jour où le monde arabe, le jour où le monde palestinien acceptera l'existence d'Israël, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, on pourra sereinement envisager un avenir de paix dans notre région. Mais c'est tout le problème. On croit, M. Macron, M. Albanese, les Norvégiens, les Irlandais, les Espagnols, pensent qu'il faut imposer un État palestinien à Israël. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. S'ils sont courageux, s'ils veulent vraiment de cette solution à deux États, alors ils doivent aujourd'hui se lever haut et clair pour imposer Israël aux Palestiniens. Alors comment on le fait pour imposer Israël? Eh bien d'abord se battre contre la dérive terroriste islamiste qu'a pris aujourd'hui le mouvement palestinien, parce que tant que cette dérive islamiste tiendra le haut du pavé dans la société palestinienne, il n'y a aucun avenir de réconciliation qui peut être envisageable, exactement comme je le disais tout à l'heure, comme ces pays ont lutté contre l'islamisme qui a frappé chez eux. Et puis, il faut aménager la société palestinienne, la conduire enfin vers l'acceptation d'Israël. Le jour où ça sera fait, eh bien, je peux vous assurer qu'on pourra envisager un avenir de paix dans notre région.
Bien, on l'espère, Daniel. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Bonsoir et un grand bonjour à tous les amis de Bruxelles et de Belgique.